Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 25 février, quand le Covid fait prospérer les gourous, le dernier rapport sur les dérives sectaires pointe une forte augmentation des signalements depuis le début de la crise sanitaire. Le couvercle remis sur le littoral niçois et Dunkerque, d'autres départements vont-ils être reconfinés le week-end? Jean Castex s'exprimera à 18h, mais il privilégie la concertation locale. Dans RTL Midi aussi, l'agression du maire de Bron dans la banlieue lyonnaise. Sa voiture a été caillassée. Il a ensuite été pris pour cible, insultes et jet de projectiles. Y aura-t-il un France-Écosse dimanche dans le cadre du tournoi Destination? Un nouveau joueur du 15 de France a contracté le Covid. Ça fait 16 en tout. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera à redécouvrir des fruits oubliés que des confitures viennent sublimer du côté de Marmande. Ce sera l'instant gourmand. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Toujours pas de saison, on s'en réjouit d'ailleurs.
Eh oui, encore une belle ambiance printanière sur les trois quarts du pays. Alors seul bémol sur le nord-ouest, entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, le Pas-de-Calais, là une perturbation, mais elle est peu active, ça veut dire très peu de pluie, juste beaucoup de nuages. Le Finistère retrouve quelques éclaircies, puis ça reste toujours gris sur le golfe du Lion, mais partout ailleurs, du beau temps, sous des températures en légère baisse, mais toujours très douces pour la saison. 11 à Cherbourg, 15 à Nantes, 17 à Paris, 18 à Reims, 20 à Mulhouse et 22 à Grenoble.
La question du jour sur RTL.fr, le confinement local doit-il être privilégié? On attend vos appels, vos arguments au 3210. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour, et pour prolonger cette question, qui sera bientôt concerné, à qui le tour, si j'ose dire, que doit décider le gouvernement face aux variants du Covid-19? C'est une question récurrente à laquelle vous pourrez répondre entre 13h et 14h30. L'autre sujet, c'est le maire de Bron, près de Lyon, Jérémy Bréau, qui a fait l'objet hier soir d'insultes, de menaces physiques, de jets de projectiles. Vous pourrez réagir sur ce sujet.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Eh bien, parlons-en justement. Il avait déjà été menacé de mort et de décapitation à plusieurs reprises depuis l'automne. Le maire Les Républicains de Bron, dans la métropole de Lyon, Jérémy Bréau, a vu sa voiture caillassée hier soir, défoncée sur un parking. Il a ensuite été pris pour cible des jets de projectiles, des insultes de la part d'un groupe d'une dizaine de personnes. Il raconte à Frédéric Perruche.
On nous a prévenu qu'une voiture était en train d'être caillassée sur le parking d'à côté, défoncée. Sur place, on a retrouvé une dizaine d'individus d'une grosse vingtaine d'années qui étaient déjà là à notre arrivée une heure avant, qui ont commencé à nous insulter, à nous menacer physiquement et puis aussi à nous lancer des projectiles, canettes de bière, bâtons et puis cailloux. Et puis j'ai vu, c'est la première fois que ça m'arrive, une canette, grand format, je l'ai vu arriver, j'ai même suivi et j'ai vu l'impact contre le mur qui était derrière. Oui, c'était honnêtement c'est anxiogène, ouais.
On a l'impression que les maires qui prônent la fermeté sont des cibles.
Bah oui, parce que là vous avez raison, c'est que moi, si depuis 6 mois je n'avais rien fait sur cette thématique-là, je serais pas là devant vous aujourd'hui. Mais c'est de ma responsabilité de protéger, on va dire, les plus fragiles, ceux qui subissent toutes ces incivilités. Mais effectivement, trop souvent, même encore maintenant sur trop de territoires, par clientélisme, on va se dire les choses, hein, par clientélisme ou autre, on préfère mettre ça sous le tapis pour pas faire de vagues. Mais sauf qu'à un moment, ça vous pète à la figure.
Le maire de Bron, Jérémy Bréau, donc, qui avait co-signé lundi dans le Figaro une tribune avec d'autres maires de sa région demandant à déchoir de ses droits civiques toute personne se rendant coupable d'outrage ou de violence contre un élu. Dans l'Essonne, 6 adolescents de 14 à 16 ans ont été mis en examen après la mort d'une collégienne de 14 ans prise dans une bagarre entre bandes à Saint-Chéron. Le jeune homme de 16 ans qui a reconnu avoir porté le coup de couteau mortel a été mis en examen. Il était déjà connu pour 2 infractions mais pas pour des faits de violence. Il a été placé en détention provisoire. Ils prospèrent sur nos peurs et le Covid leur a offert une opportunité formidable. Les gourous et autres prêcheurs d'apocalypse ont proliféré sur la pandémie. C'est ce qui ressort du rapport sur les dérives sectaires remis aujourd'hui à Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Alice Moreno.
Oui, en première ligne, les soi-disant experts bien-être et santé, gourous du crudivorisme, comprenez ceux qui prônent la consommation exclusive de fruits et légumes crus, Alors jusqu'ici, rien de très alarmant, mais ces mêmes gourous suggèrent parfois l'inefficacité de tous les traitements médicamenteux. En tête de proue, un certain Thierry Casasnovas, qui compte plus de 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il a été signalé des centaines de fois. Les conséquences en matière de santé sont parfois dramatiques. Certaines de ses victimes ont frôlé la mort. Un homme a porté plainte suite au décès de sa sœur, qui était une adepte de ce YouTuber. Dans le domaine religieux aussi, l'ami Vilud a observé un regain des théories apocalyptiques qui voient dans la crise sanitaire un signe de la fin des temps. De nouvelles églises voient ainsi le jour ou des stages survivalistes. L'ami Vilud a reçu plus de 3000 signalements sur l'année 2020 contre 2800 l'année précédente. La ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, annonce la nomination d'une magistrate à la tête de la mission interministérielle. Un conseil d'orientation y sera également intégré. Objectif, que les signalements débouchent davantage sur des enquêtes judiciaires.
Alice Moreno, et 140 000 Français seraient actuellement victimes de dérives sectaires. Vaccinés à tour de bras depuis ce matin, les médecins généralistes peuvent vacciner leurs patients âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidité avec le sérum AstraZeneca. Jean-Paul Hamon, l'ancien président de la Fédération des médecins de France, qui est aussi généraliste à Clamart, témoigne.
C'était plutôt une séance sympathique ce matin avec des personnes qui avaient toutes du diabète, de l'hypertension, des maladies coronaires ou des maladies respiratoires ou des cancers en cours. Bon, ils étaient contents de pouvoir se faire vacciner parce que bon, il y avait les deux premières notamment qui souhaitaient voir leurs petits-enfants et une première étape de fête, même si le rappel n'a pas été fait. Les 11 premières personnes, 10 ont accepté et il n'y en a qu'une qui a refusé. Et on a appris pourquoi le lendemain, parce qu'en fait, moi, de mémoire, je pensais qu'elle avait moins de 64 ans, donc c'était la seule qui avait refusé. Donc vous voyez, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, je pense que bon, la machine est lancée pour AstraZeneca. La semaine prochaine, il est prévu qu'on ait 3 flacons de 10 doses, donc ça fait 30 doses. Donc si les 30 000 généralistes qui se sont inscrits actuellement réussissent à faire 30 doses, vous voyez, c'est en train de partir gentiment, quoi. On va rentrer dans une routine de vaccination et ce sera beaucoup plus confortable pour tout le monde.
Ça part gentiment, nous dit Jean-Paul Hamon, généraliste à Clamart, avec Vincent Serrano. La France a enregistré hier plus de 31 500 nouveaux cas de Covid. C'est un chiffre au plus haut depuis la mi-novembre. Le spectre d'un reconfinement agite les esprits. Alors après le littoral niçois, près Dunkerque, faut-il envisager dans la dizaine de départements les plus touchés des week-ends confinés ? Jean Castex s'exprimera à 18h, mais Stéphane Troussel, le président socialiste du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, ne veut pas en entendre parler.
Moi, je ne veux pas qu'on fonce tête baissée vers une solution radicale dont je connais les dégâts économiques et sociaux sans avoir tout tenté d'ici là. Tout tenter, c'est quoi ? C'est un, d'abord dire et faire la transparence la plus complète sur la gravité de la situation pour que chacun redouble d'efforts dans les jours qui viennent. Tout tenter, c'est aussi prendre un certain nombre de mesures rapides alors que dans 48 heures, il nous reste 48 heures pour préparer la rentrée scolaire de lundi.
Stéphane Troussel, qui était l'invité de Benjamin Sportouche ce matin sur RTL. Alors, Jean Castex annoncera-t-il ou pas de nouveaux confinements locaux ? Jacques Serey, vous l'avez suivi ce matin dans une maison de santé à Paris et l'exécutif semble vouloir s'appuyer prudemment sur les élus locaux.
Oui, plus question de prendre des décisions non concertées depuis Paris, comme pour Nice et Dunkerque cette semaine. Si décision il y a, elles seront désormais prises en accord avec les territoires. Aujourd'hui, 10 départements connaissent une hausse des contaminations et des tensions hospitalières. On prendra des mesures là où ça s'impose, fait-on savoir dans l'entourage du Premier ministre. Le maître mot de ce soir devrait donc être l'appel à la vigilance et la concertation avec les élus locaux. Pour l'exécutif, l'enjeu de taille, pour que les décisions soient les mieux acceptées possibles, il faut montrer aux Français que tout n'est pas arbitré dans le bureau d'Emmanuel Macron. Ce qui est certain pour la conférence de tout à l'heure, c'est que l'optimisme a disparu au sommet de l'État. Le confinement, qu'il soit local, partiel ou territorialisé, revient dans tous les scénarios. Ce soir, Jean Castex mettra aussi la pression sur les Français pour leur dire que leur comportement dans les jours à venir sera décisif pour la suite. Le mur se rapproche, prévient un conseiller. Et cette stratégie du cas par cas, c'est un peu la dernière cartouche avant un troisième confinement.
Et on en saura plus à 18h. Merci Jacques. Dans un instant, on va essayer de savoir si des traitements sont possibles face au Covid.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Pour l'instant, on en parlait il y a quelques secondes, on hésite entre confinement, restrictions et vaccination faute de mieux, mais le président de la République s'intéresse de près au traitement dans cette course de vitesse. Alors pour y voir plus clair, nous sommes avec le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour.
Bonjour.
On parle en ce moment de traitement à base d'anticorps monoclonaux. De quoi s'agit-il ? Faites-nous un peu de pédagogie, professeur.
Alors, les anticorps monoclonaux, ce sont les armes naturelles qui sont produites par l'organisme, et notamment par des cellules de l'immunité, et qui vont avoir pour rôle de neutraliser le virus, entre guillemets, pour le paralyser et pour l'empêcher d'infecter les cellules et donc effectivement de se multiplier et de provoquer la maladie. C'est donc un traitement qui est à base de produits naturels qui sont synthétisés par l'organisme lui-même lorsqu'il rencontre le virus pour la première fois. Simplement, cette synthèse nécessite une vingtaine de jours dans les conditions naturelles. Mm-hmm. Et donc là, on va anticiper sur l'immunité acquise spécifique que va développer le corps humain en donnant directement ces substances produites de façon synthétique par l'industrie pharmaceutique pour permettre cette neutralisation du virus et donc dans une phase très précoce. C'est donc un traitement qui s'adresse aux patients qui sont dans les 5 jours après leur contamination. Oui. Pour éviter dans un deuxième temps de développer la phase dite inflammatoire qui va éventuellement les conduire en réanimation, voire au décès.
D'accord, donc ça n'empêche pas d'attraper la maladie, mais elle ne sera pas grave. Hein.
Exactement, c'est-à-dire la personne a bien été infectée, elle est bien contaminée, le test PCR est positif, il a bien les virus dans son organisme, et on va donner ces substances naturelles, on va dire de façon précoce, avant que l'organisme ne puisse les synthétiser lui-même, afin de neutraliser le virus et d'éviter l'évolution de la maladie vers une forme grave.
Ce traitement, il est sérieux, il est fiable, il arriverait quand ?
Alors, ce traitement est arrivé, il est parfaitement sérieux. Plusieurs études soutiennent son intérêt pour d'abord réduire, bien sûr, la charge virale, mais également améliorer l'évolution clinique et éviter l'évolution vers les formes graves. Le président Trump en a bénéficié.
Oui. Et à donc l'époque, désormais, on disait « Ah, c'est expérimental, c'est parce qu'il est président ». Non, en fait.
Alors, c'est vrai que possiblement, il a eu un passe-droit parce que c'était à ce stade dans le traitement expérimental. Désormais, c'est un traitement qui a obtenu en France une autorisation transitoire de cohorte. Donc, en fait, il peut être tout à fait prescrit. Par contre, dans des indications très restreintes, c'est-à-dire soit une personne de plus de 80 ans, soit une personne de plus de 70 ans avec des facteurs de risque, soit une personne qui a un déficit immunitaire naturel ou acquis, toutes ces personnes sont à risque de développer une maladie grave ultérieurement. Et donc, si on a la chance d'identifier leur infection précocement, dans les 5 jours, ils peuvent bénéficier de ce traitement en perfusion à l'hôpital afin d'éviter l'évolution. Oui. Vers une forme grave. Mmh.
C'est le seul traitement possible aujourd'hui ou est-ce qu'il y a d'autres pistes ?
Alors, c'est un des traitements qui permet, on va dire, très précocement d'être actif. D'autres molécules existent, mais on va dire, leur bénéfice est encore contesté ou discuté. Par contre, une fois qu'on rentre dans la maladie un peu plus sérieuse et qu'on a besoin d'oxygène, on peut bénéficier, bien sûr, d'autres thérapeutiques, notamment la cortisone, une augmentation de l'anticoagulation pour éviter la formation de caillots, une meilleure administration de l'oxygène à très haut débit avant de devoir être intubé et mis sous ventilation artificielle. Alors, à l'hôpital Lariboisière, nous avons un cocktail que l'on a appelé Coca-Cola. Oui. Que nous proposons à nos patients et qui associe donc la cortisone, la colchicine, les anticoagulants, l'aspirine et un diurétique pour permettre de tolérer tous ces traitements. Oui. C'est une potion que l'on appelle Coca-Cola et cette potion a démontré son bénéfice pour réduire les risques de formes graves et de décès. Nos résultats sont publiés dans une revue scientifique anglaise.
Oui, ça c'est les progrès qui ont été faits en réanimation.
Exactement.
Hein, ça
ne
s'adresse pas non plus à tout le monde.
Ça s'adresse aux patients hospitalisés.
Voilà, c'est ça.
Justement, avant, c'est-à-dire une fois qu'ils rentrent à l'hôpital en raison d'un besoin d'oxygène, pour éviter justement justement d'arriver à la réanimation, voire malheureusement d'évoluer défavorablement. Par contre, effectivement, pour le moment, ça ne s'adresse pas aux patients vus très précocement.
Très précocement. Ben, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair et ça nous donne plein d'espoir. Merci professeur Megarban.
Voilà, merci à
merci,
vous.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Face à la pandémie, les pays européens avancent toujours en ordre dispersé. La France va demander des tests PCR négatifs de moins de 72 heures à partir de lundi pour les déplacements non professionnels de frontaliers entre l'Allemagne et la Moselle, qui est l'un des départements les plus touchés. Et finalement, c'est assez représentatif des tensions qu'il y a en ce moment entre les 27 face à la progression des variants, Bénédicte Tassin.
Oui, et les chefs d'État et de gouvernement réunis au sommet européen vont passer beaucoup de temps sur ce dossier de la libre circulation. Objectif, éviter à tout prix la cacophonie d'il y a un an quand les pays verrouillaient leurs frontières sans préavis. 11 mois plus tard, eh bien, on est mal parti pour faire mieux. Face aux variants, une dizaine de nations a pris des mesures de restriction des voyages. L'Allemagne, vous venez d'en parler, mais aussi la Belgique, par exemple, qui interdit depuis fin janvier tous les voyages non essentiels, mais également le Danemark, la Finlande, la Suède ou encore la Hongrie. La Commission européenne leur a déjà envoyé un courrier leur demandant de revenir sur leurs interdictions. D'accord pour des tests ou des quarantaines, mais pas pour fermer. Cette discussion va se poursuivre avec le fameux passeport vaccinal. Toujours en réflexion, il faut un papier valable dans toute l'Union européenne. Et puis là aussi, il faut se mettre d'accord à 27. Le certificat suffira-t-il pour franchir une frontière? Ou faudra-t-il également un test négatif? Les pays méditerranéens, vous le savez, sont préoccupés par leur saison touristique. Ils se veulent pressants. La Commission affirme qu'on a encore le temps d'y réfléchir.
Bénédicte Tassard. Et l'hécatombe continue dans le 15 de France. La bulle sanitaire a définitivement explosé. Un nouveau joueur a été testé positif, le 16e. Les entraînements prévus aujourd'hui sont suspendus et on est à 3 jours de France-Écosse, en principe, Jean-Michel Rascol.
Oui, et la rencontre est du coup à nouveau menacée puisque le comité destination, au moment de confirmer hier la tenue de France-Écosse, avait précisé qu'il pouvait revoir sa position si de nouveaux cas apparaissaient dans l'effectif du 15 de France. Car c'est bien un joueur qui a été testé positif, résultat d'un prélèvement effectué hier soir à Marcoussis. Du coup, les entraînements collectifs prévus aujourd'hui ont été suspendus, ainsi que la conférence de presse qui, en début d'après-midi, devait permettre aux journalistes d'échanger en visioconférence avec 2 joueurs et 2 entraîneurs. Sur les 16 joueurs et membres de l'encadrement touchés, au moins 2, dont Fabien Galthié, développeraient des symptômes légers. Pas de drop donc dans le ciel dégagé, Christelle, de Marcoussis, mais des plateaux repas déposés devant la porte de chambre où les 30 joueurs encore épargnés respectent la consigne du jour, l'isolement.
Jean-Michel Rascol, le Japon s'agrippe toujours aux Jeux Olympiques. La flamme partira de Fukushima le 25 mars. Mais sur son parcours, les spectateurs auront juste le droit de voir passer la flamme masquée et toute acclamation sera interdite. C'est festif quand même, hein. Une pause et dans un instant, la reconstruction très lente de Beyrouth, 6 mois après l'explosion.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Beyrouth éventré, dévasté par une gigantesque explosion au nitrate d'ammonium. Il y a 6 mois, la catastrophe avait fait 200 morts, 6500 blessés et 300 000 sans-abri. La ville est encore extrêmement marquée. La reconstruction tributaire de la solidarité internationale est lente. C'est un reportage de Philippines de Clermont-Tonnerre.
Les façades d'immeubles éventrés font désormais partie du paysage. Plus de 6 mois après la double explosion survenue au port de Beyrouth, il reste encore beaucoup à faire pour reconstruire la ville. Architectes pour une ONG locale, Alexis et Sarah sont venus évaluer les dégâts au pied d'une maison entièrement démolie.
Les décombres sont toujours là, comme si l'explosion avait eu lieu hier. Personne n'a encore pu les enlever. Il y a du bois, du verre, de l'aluminium sur le sol.
Les anciennes bâtisses ont été les plus durement endommagées. Leur rénovation est aussi la plus coûteuse.
Toutes les NGOs ont essayé de travailler avec sur des maisons avec des dommages très minimales. Et personne n'a aidé les gens avec des dommages comme ceux-là qu'on voit ici. On parle là d'un projet qui va coûter plus que 500 000 dollars.
Au total, près de 500 demeures traditionnelles ont été impactées. Aucune jusqu'à présent n'a été réhabilitée.
It's part of our culture.
Ça fait partie de notre culture. Il ne s'agit pas seulement de la reconstruction du patrimoine, mais aussi du tissu urbain des gens qui vivent ici. Beyrouth n'est pas Beyrouth sans ces gens.
Dans un pays frappé par une grave crise économique, la résurrection de ce patrimoine pourrait prendre des années.
Ils sont vieux, mais ils vont devoir attendre avant la retraite. Les plus anciens réacteurs nucléaires mis en service dans les années 80 devraient être prolongés de 10 ans. C'est ce que recommande l'autorité de sûreté nucléaire, mais il va falloir réaliser des travaux pour améliorer leur sécurité. Une tête de lion stylisée, très vintage, c'est le nouveau logo de Peugeot qui coïncide avec le lancement de la future 308. Le constructeur abandonne le corps du lion pour se concentrer sur la tête, comme ce fut le cas dans les années 60.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et c'est un coup de cœur qui va nous faire saliver. Nous partons à Virazeil, dans le Lot-et-Garonne, près de Marmande, où le célèbre fabricant de confitures, le passionné Lucien Georgelin, vient de partir à la reconquête des fruits oubliés, Denis Grandjou.
Oui, des fruits que Lucien Georgelin retrouvait en se baladant avec sa voiture, le week-end, dans les vergers du Sud-Ouest. C'est sa passion.
Vieille variété de pêche de vigne, hein, rouge, pêche jaune, pêche blanche. Il y a aussi un bouillon que j'ai trouvé dans le Périgord, qui est exceptionnel. Il y a des prunes aussi, comme la prune à cochon. Il y a une variété de pommes que j'ai mis en place aussi, pareil. Si vieille variété, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est ça qui est fantastique. Ça n'a pas de nom, quoi, en plus. Quoi. Et ça m'amuse.
Alors, une trentaine de producteurs du Lot-et-Garonne sont prêts à se lancer aux côtés de Lucien Georgelin dans cette belle aventure.
On est en train de lancer quelque chose qui n'existe pas au niveau industriel. Quoi. Et je me dis, là tu as sûrement un super truc à faire.
Alors, j'ai de la chance, Christelle, puisque j'ai à côté de moi un bocal de compote d'une variété de pommes complètement oubliée. J'ouvre la cuillère. Franchement, c'est délicieux. Si vous voulez, demain, je vous ferai les fraises oubliées.
Quel gourmand ce Denis Grandjou. Merci beaucoup. Et cette toute dernière minute, on vient d'apprendre que le match du 15 de France, France-Écosse, dimanche, est reporté à une date ultérieure, puisqu'il y a désormais 16.
C'est la meilleure nouvelle de la journée. Parce qu'on a une chance de gagner le tournoi Destination, mais évidemment, on était très handicapés. Il y avait déjà 12 joueurs, plus 4 de l'encadrement, ça faisait 13 joueurs. Donc on aurait été en difficulté contre l'Écosse. Là, on pourra peut-être jouer avec une équipe meilleur.
Absolument. Donc voilà. En tout cas, c'est l'info du moment.
C'est pas une mauvaise nouvelle. Le match est bien porté. Sportif. Voilà. C'était très intéressant d'écouter votre journal, comme tous les jours.
Merci.
Je suis pas sûr d'avoir compris complètement tout le cocktail Coca-Cola, mais en revanche, j'ai compris.
Ça, c'était pour la.
J'ai compris qu'il allait guérir. Donc, c'est ça le plus important, qu'il pouvait guérir. En tout cas, qu'il pouvait atténuer la maladie, qu'elle devienne moins grave.
Exactement.
Ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle.
C'est une bonne
quand
nouvelle
même.
Et on ne va pas s'en priver.
Ah bah, écoutez, oui, et effectivement, je suis même surpris qu'on n'en parle pas davantage, pour tout vous dire. Parce que si c'est efficace et que ça empêche évidemment de développer gravement la maladie et a fortiori les décès, c'est une bonne nouvelle. On parlera de Bron, évidemment, avec le maire Jérémy Bréau, qui a fait l'objet hier soir d'insultes, de menaces. C'est très intéressant, le maire de Bron, parce qu'il a été élu au printemps sur un programme de sécurité. Et effectivement, il s'attaque notamment à la délinquance et sans doute à la drogue. Et certains, effectivement, ne sont pas contents qu'on vienne sur ce terrain-là.
Et d'ailleurs, il a fait l'objet des premières menaces de mort dès le mois d'octobre.
Bien sûr, parce qu'effectivement, il essaye de faire bouger les choses. Donc vous pourrez réagir sur ces sujets-là, comme sur les autres sujets.
À tout de suite. La météo Peggy Broche, savourons cette douceur.
Et oui Christelle, malgré la baisse, on reste tout de même 6 à 10 degrés au-dessus des normales. 12 au Havre attendu cet après-midi, 15 au Mans, 16 à Lille comme à Nîmes et Toulouse, 17 à Paris et Biarritz, 18 à Limoges, Nice et Bastia, 19 à Bourges, Strasbourg et Besançon, 21 à Lyon et même 22 degrés à Grenoble. Alors côté ciel, il y a cette petite perturbation sur le nord-ouest entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et le Pas-de-Calais. Alors elle est très peu active, hein, à peine 2-3 gouttes, mais c'est bien couvert. Le Finistère retrouve quand même quelques éclaircies cet après-midi et toujours beaucoup de nuages et du vent sur le golfe du Lion, mais partout ailleurs, c'est du beau temps. Juste légèrement plus voilé entre l'Aquitaine, l'Île-de-France et les Ardennes. Mais franchement, l'impression reste belle.
Bon, et demain, alors là, on change de régime. Hein.
Oui, parce que les températures, elles vont bien baisser, même si on restera quand même par endroits 3 à 5 degrés au-dessus des normales. De 19 à Metz aujourd'hui, ça redescendra à 11 degrés. On va en perdre 8. 11 également à Lille et Brest, 17 à Paris aujourd'hui. Il n'en fera plus que 12 demain, 14 à Toulouse, 15 à Bordeaux, 18 à Marseille, 19 à Montpellier. Mais ça reste toujours au-dessus des normales, je le rappelle. Et puis les nuages seront bien plus nombreux demain entre le sud-ouest, le centre, l'Île-de-France et le nord-est, avec quelques pluies entre la Touraine et le nord-est le matin. Mais ces pluies seront plus régulières et plus nombreuses dans l'après-midi entre sur le centre, l'Île-de-France, le sud de la Champagne. Et puis de part et d'autre de cette zone bien nuageuse, il fera beau. Donc beau sur le nord et le nord-ouest et également sur un large quart sud-est en remontant vers la Franche-Comté.
Bah c'est quand même très bien tout ça.
C'est pas mal.
N'oublions pas que c'est l'hiver. Hein.
On est bien d'accord.
Merci Peggy. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il est quasiment 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le maire de Bron, près de Lyon, Jérémy Bréau, a fait l'objet hier soir d'insultes, de menaces physiques, sans doute parce qu'il s'attaque à la délinquance et au business de la drogue. Nous sommes avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Pascal.
Vous avez été vous-même maire d'une petite commune ?
Oui, enfin une commune pour la Charente qui est une commune importante, autour de 4000 habitants. Mmh.
Et j'imagine que ça vous fait réagir ce qui est arrivé à M. Bréau hier.
Oui, d'autant que je connais le problème étant élu depuis bientôt 44 ans, sans discontinuer.
Eh bien, on va poursuivre cette discussion après le rappel des titres avec Christelle.
Pas de France-Écosse. Dimanche, le match du tournoi des Six Nations vient d'être reporté sine die, puisque 16 joueurs de l'équipe de France sont désormais contaminés. Un joueur de plus ce matin, on l'a appris. Y aura-t-il des confinements locaux le week-end pour faire face à la remontée de l'épidémie, en particulier dans une dizaine de départements? Jean Castex fera des annonces à 18h, mais l'exécutif privilégie la concertation avec les élus locaux. Les médecins généralistes vaccinent depuis ce matin leurs patients âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidité avec le sérum AstraZeneca. Et pour se protéger, la France va demander des tests PCR négatifs de moins de 72 heures dès lundi pour les déplacements non professionnels de frontaliers entre l'Allemagne et la Moselle, qui est l'un des départements les plus touchés.